Vous écoutez RTL.
7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin François Fillon.
Bonjour François Fillon.
Bonjour.
Jean-Marie Le Pen est suspendu depuis hier soir du Front National. Sa fille Marine Le Pen prend ainsi nettement ses distances avec le fondateur du Front National. Lui donnez-vous acte de ce geste politique à Marine Le Pen ?
Je lui donne acte de rien du tout. Je pense que ça va ouvrir les yeux d'un certain nombre de Français sur la réalité de ce qu'est le Front National, c'est-à-dire une petite affaire familiale, une bagarre entre le père, la fille et bientôt la petite fille.
Ça n'est que ça ?
C'est ensuite un parti d'extrême droite et c'est enfin surtout un parti qui a un programme politique qui mettrait le pays à genoux en moins de 6 mois.
Et qui séduit un quart de l'électorat.
Eh bien oui, c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux des Français sur la réalité de ce qu'est le Front National. Alors peut-être que la bataille entre la fille et le père va contribuer à leur ouvrir les yeux, mais c'est surtout la question du programme qui doit être désormais mise en avant.
Commentaire de Jean-Marie Le Pen ce matin, une victoire de Marine Le Pen à l'Élysée serait scandaleux.
Ben, ça montre qu'il est lucide.
C'est dit, cet après-midi, les députés seront appelés à voter sur le projet de loi organisant les techniques de renseignement censées mieux lutter contre le terrorisme. Voterez-vous ce projet de loi, François Fillon ?
Alors, c'est une priorité de lutter contre le terrorisme, évidemment. C'était nécessaire d'adapter le cadre législatif qui régit l'action des services de renseignement, car il y a un certain nombre de pratiques qui, dans le passé, n'étaient pas encadrées, puisqu'elles correspondaient à des technologies qui n'existaient pas lorsque les lois ont été votées. Néanmoins, moi, j'ai une réserve sur ce texte.
Encore aujourd'hui,
à quelques heures du vote, et je vous la livre. La question qui est posée, et c'est pour ça que j'ai souhaité que le Conseil constitutionnel soit consulté. J'avais indiqué il y a quelques semaines que ce serait bien si le gouvernement consultait le Conseil constitutionnel, et j'avais dit que si le gouvernement ne le faisait pas, moi je prendrais l'initiative de le faire, président de la République a décidé de le faire.
Voilà.
La question qui est posée, c'est est-ce que les moyens, ce qu'on appelle les moyens exceptionnels de renseignement, c'est-à-dire l'algorithme qui permet de détecter les comportements anormaux, est-ce qu'il sera utilisé strictement pour la lutte contre le terrorisme, la prolifération nucléaire et puis les atteintes vitales à la sûreté de l'État, ou est-ce qu'il sera utilisé plus largement ? Moi, je pense que la rédaction du texte aujourd'hui est trop large.
Et donc, vous ne le voterez pas ?
Non, n'allez pas jusque, ouais, n'allez
pas
trop
si vite.
Ma conviction, c'est que le Conseil constitutionnel ne peut pas laisser passer la rédaction telle qu'elle est. Et donc, moi, je suis confiant sur la décision du Conseil constitutionnel. Et en conséquence, je voterai ce texte. Je le voterai parce que je ne veux pas priver mon pays des moyens de la lutte contre le terrorisme. Mais j'ai confiance dans la décision du Conseil. Et si jamais la question posée par le président de la République, parce qu'il y a encore un doute sur la nature de cette question, n'était pas suffisamment large à ce moment-là, eh bien les parlementaires saisiraient eux-mêmes le Conseil constitutionnel.
Préciseraient la saisine auprès du Conseil. Donc
absolument,
vous voterez ce texte, François Fillon. Puisqu'on parle de renseignement, on a appris la semaine dernière que les services secrets allemands avait espionné pour le compte des Américains, des entreprises françaises et aussi des hauts fonctionnaires français, notamment à l'époque durant laquelle vous étiez Premier ministre. Peut-être indirectement avez-vous été écouté, François Fillon, cela vous choque-t-il et cherchez-vous à savoir la vérité sur cette
histoire ? Non seulement ça me choque, il y a deux choses qui me choquent. Ce qui me choque, c'est l'idée même que les services de renseignement allemands travaillent pour le compte des services de renseignement américains et espionnent des responsables politiques français ou Airbus. On voit bien pourquoi, au fond, pour donner des informations à son concurrent américain.
Oui.
C'est parfaitement scandaleux. Ce qui me choque encore plus, c'est l'absence de réaction allemande. On a le sentiment
Il y a un gros débat en Allemagne. Hein.
Oui, enfin, il y a un gros débat, mais moi j'avais déjà été scandalisé par l'annonce des écoutes du portable de Mme Merkel par les services de renseignement américains. C'est quand même un sujet qui aurait mérité une explication franche entre les États-Unis et l'Allemagne. Et ça me conforte dans une idée qu'au fond, l'Europe n'est pas indépendante. Et si l'Europe n'est pas indépendante, c'est en grande partie à cause de la relation très particulière qui existe entre l'Allemagne et les États-Unis. On dit toujours qu'il y a une relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Je pense qu'en réalité, la relation spéciale, elle est entre l'Allemagne et les États-Unis.
Est-ce que vous avez essayé d'en savoir davantage ? Vous avez des contacts en Allemagne, vous connaissez Angela Merkel.
J'essaye d'en savoir davantage.
Vous avez appelé Angela Merkel, par exemple ?
Non, je n'ai pas appelé Angela Merkel, mais j'ai entrepris, il y a déjà plusieurs semaines, toute une série de visites en Allemagne, non pas pour enquêter sur ce sujet, mais pour regarder comment on pourrait, français et allemand, mettre sur la table ce débat de l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Ça pose la question du dollar et de l'euro, ça pose la question de la politique étrangère affaires européennes. Ça pose même la question de la Grèce, puisque j'ai appris incidemment que M. Obama faisait une grosse pression sur Mme Merkel pour qu'elle soutienne la Grèce pour des raisons qui n'ont sans doute rien à voir avec les intérêts de l'Europe.
C'est possible. Vous voyez, moi, j'ai été étonné de l'absence de réaction en France sur ce sujet. Personne n'en parle ou très peu.
Oui, vous avez raison, mais heureusement, vous en parlez, donc vous allez contribuer à faire naître le débat.
Je ne faisais pas cette remarque pour cela, pour m'attirer.
Non, mais je vous en remercie.
Vos félicitations, mais
vous avez raison de le faire, parce que c'est un sujet.
La réforme des programmes du collège présentée par Najat Vallaud-Belkacem suscite des critiques. Vous avez été ministre de l'Éducation. Vous savez combien il est difficile de réformer l'éducation. Vous la soutenez ?
Oui, non, je ne la soutiens pas du tout. Et je voudrais qu'elle suspende sa réforme.
Carrément ?
Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est, bien sûr que c'est difficile de réformer l'école, mais ce n'est pas parce que c'est difficile de réformer l'école que ça justifie n'importe quoi. Or, on nous avait promis une refondation de l'école. À la place de la refondation de l'école, on a plutôt une destruction.
En tout cas,
d'un certain nombre de fondamentaux. Et puis, on a surtout des bavardages inutiles sur des sujets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme ? Ouais. Il y a la fin des cours de latin et de grec. Je reconnais qu'il concerne un petit nombre de gens, mais enfin, pourquoi priver une partie des jeunes Français qui accédaient à ces humanités de ce cours ? Il y a la fin, qui est peut-être encore plus grave, des classes bilingues que j'avais créées à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand pour répondre à une demande allemande qui était comment on fait pour que l'allemand soit mieux enseigné en France. Et puis il y a une réécriture des programmes. Alors ça, c'est pas nouveau, les problèmes des programmes. Des programmes d'histoire qui est parfaitement scandaleux.
Mais ça, on mettra jamais tout le monde d'accord.
Hein. Oui, non, mais là, attendez, il y a deux questions qui sont posées. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui écrivent des programmes avec qui sont d'abord hors sol et puis qui ont des visées idéologiques qui sont évidentes. Moi, pardon de citer les textes, mais en cinquième, c'est obligatoire d'étudier l'islam, début, expansion, société et culture, et c'est facultatif d'étudier une société rurale encadrée par l'Église.
Mais parce que le christianisme est étudié en sixième.
Et en quatrième, il est obligatoire d'étudier un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux et traites négrières, et il est facultatif d'étudier société et culture. On voit bien quand même qu'il y a un objectif qui peut partir d'ailleurs de bons sentiments, essayer de rassembler la nation française, mais on ne va pas la rassembler avec ça.
Il faut suspendre la réforme, en tout cas c'est ce que vous demandez à Najat Vallaud-Belkacem.
Il ne faut pas insulter les intellectuels. Vous dites qu'il n'y a pas de débat sur l'affaire allemande, mais il n'y a pas de débat non plus quand Mme Belkacem traite la moitié des intellectuels français de pseudo-intellectuels. Si c'était un ministre de droite qui l'avait fait, je peux vous promettre qu'il y aurait eu une sacrée polémique.
On va prendre 10 secondes, c'était jeudi sur RTL, on l'écoute.
Des éditorialistes, des polémistes, des pseudo-intellectuels, des gens, en effet, s'expriment sur cette question de la réforme du collège sans avoir lu le contenu de cette réforme.
Mais vous l'avez lu.
Oui, je l'ai lu. Et puis les pseudo-intellectuels en question, c'est Onfray, c'est Régis Debray.
Pascal Bruckner,
c'est Pascal Bruckner, c'est Luc Ferry. Enfin,
D'un mot, la jupe noire à Charleville-Mézières, on interdit à une collégienne l'accès au collège.
On voit bien qu'on est en train de s'embarquer dans un truc qui est absolument ingérable, qui va nous amener à réagir en permanence à des provocations. Je pense qu'il ne faut certainement pas légiférer sur ces questions. En revanche, j'ai suggéré depuis longtemps que les établissements scolaires puissent prendre la décision, c'est leur responsabilité, d'imposer une sorte de tenue uniforme. Qui n'est naturellement ni une blouse, ni des cravates et des vestes. Mais
vous soutenez l'équipe de pédagogique éducative de
Charleville-Mézières ? Non, parce que je trouve que la décision sur la jupe nous emmène dans un débat invraisemblable. On va commencer à mesurer la longueur des jupes. Demain, on va interdire les gants. Enfin, donc, ou bien on laisse une grande liberté, ou bien on fixe une tenue uniforme pour tout le monde.
Et dernière question. Nicolas Sarkozy a raison de consulter les militants de l'UMP sur le changement de nom. Et si vous êtes consulté, François Fillon, vous voterez oui aux Républicains.
On a toujours raison de consulter les militants. Ce n'est pas un débat qui me passionne. Je trouve que le mot de républicain ne peut pas faire l'objet d'opposition. Je suis un républicain. Il ne me paraît pas suffisamment précis pour distinguer, pour définir ce qu'est notre formation politique aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres sur la table. Je ne vais pas voter contre la République.
C'est dit, François Fillon ne vote pas contre la République, il était l'invité d'RTL.
Une dernière précision, François Fillon, ça fait beaucoup réagir les auditeurs d'RTL ce matin, l'armée française qui s'équipe de 4x4 Ford et non pas français.
Oui, ça paraît étonnant, je ne connais pas le dossier.
Il y avait un appel d'offres, hein, et notamment des Dacia Duster.
Il y a deux questions qui sont posées, est-ce qu'il y a des contreparties et où ces 4x4 sont fabriqués ? Parce que à ma connaissance, Ford a quand même quelques usines en Europe. Mais si c'est vraiment une fabrication américaine, avec un pays, les États-Unis, qui ne sont pas très très prompts à acheter des armes françaises, la question peut se poser vraiment.
Entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.